Alors, bienvenue à tous et désolé pour ce retard dans le démarrage de ce premier webinaire du CRT. Le sujet d'aujourd'hui est la rédaction technique par la pratique. Je suis allé récemment dans une conférence où très peu de conférenciers se sont présentés et ont annoncé leur plan. Je me suis retrouvé dans la situation de devoir construire peu à peu moi-même toutes ces méta-informations très importantes, enfin indispensables à la compréhension, et j'ai même lors d'une des interventions été perdu du début à la fin, parce qu'il me manquait des informations sur certains termes, sur certains concepts qui étaient utilisés. Je vais donc prendre le temps de me présenter, et puis de vous présenter le contexte dans lequel cette réflexion s'inscrit. Alors, je m'appelle Jean-Paul Bardès, j'interviens depuis 20 ans sur le sujet de l'enseignement de la rédaction technique, pas nécessairement chaque année, mais régulièrement, de manière récurrente, et selon moi à trois titres, en tant que pédagogue généraliste, c'est comme ça que je me vois, en tant qu'autodidacte, c'est une notion qui me semble importante dans le métier, et en tant que praticien de la communication écrite. Alors je me considère comme un pédagogue généraliste parce que j'ai transmis des savoirs et des savoir-faire dans plusieurs domaines, l'enseignement des langues, mais aussi la danse, la rédaction technique, et dans trois pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et dans toutes ces situations d'enseignement, j'ai fini par identifier les mêmes obstacles et les mêmes solutions. Donc je vous parlerai du côté autodidacte ultérieurement. Enfin, je tire ma légitimité pour parler de ce sujet de l'enseignement de la rédaction, du fait que je suis un praticien de la traduction et de la rédaction technique depuis 1991, évidemment que la traduction n'est pas le même métier que la rédaction, ainsi que de la conception de site internet depuis 2001. Et ça non plus, on ne peut pas considérer que ce soit de la rédaction technique, et pourtant, quelque part, ça en est aussi. M'étant présenté, je vous présente maintenant les grandes lignes de cette présentation. Donc il y aura quatre parties, le contexte de communication, ce que l'école ne nous apprend pas, des exemples d'ateliers et puis des outils métiers à inventer. Dans la première partie, je définirai tout d'abord un certain nombre de mots-clés qui sont les concepts qui étayent ma pratique et ensuite seulement nous entrerons dans le vif du sujet. Je n'ai pas écrit de thèse formelle sur ce sujet, je suis tout à fait conscient qu'il sera possible de critiquer les termes que j'emploie. Je ne suis pas un linguiste. Mon objectif en présentant ces termes est simplement d'essayer de communiquer au mieux avec vous en partageant une approche qui fonctionne et qui produit des résultats qui sont mesurables. Et c'est ce côté-là qui est très important pour moi. C'est une approche par essai et par erreur que j'ai construite peu à peu. Elle est tout à fait améliorable. J'ai encore deux autres choses à dire en préambule. Quand on aborde un sujet, il y a toujours deux optiques. L'une qui parle du général pour aller au particulier, et l'autre qui peut partir d'un exemple pour généraliser. C'est sûr qu'au niveau de la méthode, c'est la plus fragile, cette deuxième possibilité, mais c'est en partant d'une histoire personnelle qu'on produit le plus d'empathie au niveau de son public. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans une minute, parce que c'est précisément l'approche que j'ai choisie. Et enfin, dernier point, le but de cette communication est de faire parler les grands absents du débat. Les grands absents, ce sont les utilisateurs, ce sont ceux qui utilisent ce que nous produisons. Pour cela, je ferai un parallèle entre l'enseignement et le transfert de connaissances, que le rédacteur effectue lui aussi. Je vais donc commencer par présenter en première partie les mots-clés qui me semblent être pertinents dans ce débat. Nous allons tout d'abord parler du contexte de communication avec la sous-partie que j'ai appelée « Clé du savoir et pédagogie ». Suivent toute une série de mots dont je vous laisse prendre rapidement connaissance, mais nous les reverrons. Clé du savoir et pédagogie. Alors, je vais commencer à un niveau tout à fait personnel. Je vais commencer en effet à vous parler, par vous parler de mon père. Il fut un temps où on exerçait son métier de père en fils. Et il y a des choses qui se transmettent par la famille sans qu'il n'y ait nécessairement d'intention de les transmettre. Ça existe encore à l'heure actuelle, évidemment. Ces choses sont de l'ordre des savoir-faire et des savoir-être. Mon premier contact avec la pédagogie a été par l'intermédiaire de mon père, qui a été instituteur puis professeur de musique de la ville de Paris, en école primaire et en collège. Ce premier contact a été fort et prégnant parce que mon père était un enseignant militant. Un enseignant militant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a été un enseignant militant, mais pour une raison toute simple. Il était le 17e et dernier enfant vivant d'une famille ouvrière parisienne et il avait réussi à réaliser pour sa famille le miracle de l'ascension sociale par les études. En réussissant d'abord son certificat d'études, puis en devenant enseignant grâce au soutien particulier d'un instituteur qui a cru en lui, et qu'il a aidé gratuitement à réussir le concours d'entrée à l'école normale. Toute sa vie, il a donc été particulièrement attentif à fournir en retour gratuitement une aide aux enfants de familles modestes, dont les familles ne pouvaient pas les aider au niveau méthodologique, n'ayant pas eux-mêmes les clés de l'accession au savoir. Ce terme-là, il est central pour moi. Les clés de l'accession au savoir, ça correspond à tout un non-dit méthodologique que les familles qui ont fait les études transmettent à leurs enfants sans même s'en rendre compte, alors que les autres ne peuvent pas parce qu'elles ne l'ont pas. Donc il a réfléchi particulièrement aux moyens de transmettre, et toute la famille, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous avons baigné dans ses réflexions pendant tout le temps que nous avons partagé avec lui. Ses réflexions sur comment faire comprendre, d'une part au public socialement défavorisé, mais ensuite par extension aux handicapés, aux dyslexiques, aux aveugles, aux adultes et aux autres personnes avec un handicap ou une différence quelconque. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce que ça concerne la rédaction technique? Ça nous concerne directement parce que nous avons aussi des publics qui sont hétérogènes. Il a enseigné à tous ces publics et à chaque fois il a développé des approches originales, souvent très visuelles, pour les différentes manières d'apprendre qui correspondent à ces publics. On peut aussi parler de destinataires du message. Voilà, pour moi ce sont des gens réels que j'ai vus défiler à la maison. Bon, nous avons continué sur les connaissances partagées et la progression. Alors, ces connaissances partagées, elles sont partagées ou pas, et elles permettent, ou justement, puisqu'elles ne sont pas là, elles ne permettent pas la progression. Un mot-clé au niveau de l'approche de la communication me semble être celui de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est le moyen par lequel on explique des choses compliquées à des gens qui n'ont pas nécessairement les bases techniques pour les comprendre. Alors, pour y parvenir, on part de concepts qu'elles connaissent, c'est la base commune dont on part, et on procède par analogie. Mais ce préalable de se poser la question de ce que savent les personnes auxquelles on enseigne ou pour lesquelles on rédige des notices n'est-il pas en principe le fondement même de notre travail? On ne devrait même pas avoir besoin de se poser la question. Pourtant, il est très utile de se la poser. Et se poser la question permet de déterminer par quoi on va commencer. Un autre mot-clé, c'est le mot autodidacte. Être autodidacte, c'est réussir à appréhender ce qui manque et ce qu'il faut mettre en œuvre pour parvenir à acquérir de nouvelles connaissances ou savoir-faire. C'est savoir être à la fois élève et enseignant. C'est devenir conscient de ce qui nous manque et également du processus à mettre en place pour pouvoir comprendre. C'est une démarche particulièrement intéressante quand on cherche à comprendre ce que l'autre ne comprend pas et surtout pourquoi, afin de réussir finalement à lui expliquer. C'est là qu'arrive l'analogie avec la rédaction technique. Nous, rédacteurs techniques, nous écrivons aussi pour des personnes réelles et nous devons nous assurer qu'elles nous comprennent. Même si elles ont suivi un cursus scolaire court, même si elles sont handicapées, même si le français n'est pas leur langue maternelle, même si elles sont âgées, etc. Si nous écrivons pour le grand public, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, attention donc aux termes que nous employons, si nous voulons être compris, mais aussi aux approches. Et nous devons non seulement nous poser la question de savoir qui sont les destinataires de nos outils, mais aussi la question de comment nous en assurer, sous peine de rester au niveau de la promesse électorale, ce qui est tout à fait de saison. Nous pouvons répondre à cette dernière question de manière tout à fait concrète et toujours avec succès en testant la documentation. Comment puis-je savoir si une personne m'a compris? En lui demandant. Le bon sens appliqué à l'industrie. Ça, c'était pour la partie connaissance partagée et progression. Transmission et attitude. Je vais vous parler du mot transmettre. Personnellement, je vous ai prévenu que j'allais rattacher ce que je vous dis à un vécu. Personnellement, je n'ai pas trouvé l'expérience du passage par l'école particulièrement agréable. J'ai rencontré assez peu de pédagogues intéressants dans le cursus général, et c'est seulement au niveau universitaire que j'ai trouvé des passionnés qui réussissaient à transmettre leur passion. Il me semble dommage de devoir attendre si longtemps, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Il y a un autre apprentissage qui m'a construit, c'est celui de la danse classique, que j'ai appris à partir de l'âge de 10 ans. C'est l'apprentissage d'une activité psychomotrice, qu'on appelle parfois aussi discipline, et pour laquelle des méthodes utilisées par certains professeurs s'apparentent parfois effectivement au dressage. J'ai fait l'expérience de ces méthodes d'un autre âge, qui génèrent beaucoup de frustration et qui ne sont pas nécessairement efficaces pour produire des artistes. On trouve malheureusement encore des vestiges de cette approche condescendante et par la brimade, encore chez certains dinosaures dans l'éducation nationale. Par conséquent, on la retrouve aussi dans les entreprises, appliquées aux clients. Parce qu'il y a un effet secondaire qui est qu'on reproduit la manière dont on a appris et on reproduit la manière dont on a fonctionné en groupe. C'est ce qu'on va voir maintenant. Les effets secondaires de la transmission et des modes de fonctionnement en groupe. L'école a des effets secondaires. Oui, on ne transmet pas uniquement un savoir, mais pendant le processus, on transmet la manière dont la connaissance a été transmise. Ce que l'on retient, en fait, Ce qui a le plus marqué notre mémoire, c'est pas le contenu des cours, plus personne s'en rappelle. C'est plutôt l'attitude de l'enseignant qui a été bienveillante, encourageante ou au contraire condescendante ou limitative, ainsi que les rapports que nous avons pu avoir avec nos camarades, les rapports de complicité, de collaboration ou alors de concurrence et de rivalité. Et tout ça, c'est l'enseignant qui le met en place. À l'école, on apprend à apprendre, on apprend à transmettre et on apprend des relations de groupe ou, au contraire, des attitudes individualistes. Et ensuite, on reproduit ces schémas de fonctionnement dans sa vie professionnelle et sociale. Aimer faire découvrir. J'en arrive au mot-clé autodidacte. L'autodidactie est encore une chose que m'a apprise mon père. Lui a été autodidacte des instruments de musique. Il a appris à jouer du violon, mais il a appris ensuite tout seul à jouer de tas d'autres instruments de musique comme le piano, le saxophone, la clarinette et la guitare. Moi, j'ai appris évidemment d'autres choses tout seul. J'ai appris l'électricité, la plomberie, la mécanique, puis l'anglais. Et je n'ai jamais hésité à aller vers les choses que j'avais envie d'apprendre. Et ça, c'est le mot-clé que je veux introduire. Pour l'apprentissage, c'est le désir d'apprendre qui compte. C'est ça le maître mot. C'est le désir d'apprendre que le pédagogue doit entretenir chez l'apprenant. Sans cette petite flamme, aucun apprentissage n'est possible. Les enfants apprennent bien des personnes qu'ils aiment, qui leur donnent envie d'apprendre. La séduction n'est pas évidemment l'unique ingrédient de la transmission, mais il en fait partie. Pour pouvoir transmettre, le pédagogue doit avoir envie de donner envie. Le rédacteur technique doit aussi avoir envie de transmettre une information. Savoir mettre en scène, transposer au niveau de la rédaction, l'outil mis à l'utilisation de l'utilisateur par le rédacteur doit être attirant. Une documentation, format ticket de métro, écrit en taille 8 voire 6, a peu de chances d'être lue autrement que sous la torture. Si l'information d'utilisation fait partie du produit, comme sur les imprimantes avec écran d'aide intégré, ce sera encore plus facile. Il y a donc une dimension esthétique à prendre en compte dans le support d'informations que nous fournissons. Et utiliser les ressources du groupe, il est beaucoup plus efficace de faire travailler les apprenants ensemble pour qu'ils capitalisent sur leurs ressources communes. C'est une pratique de plus en plus répandue dans le monde du travail et qui commence à s'installer à l'école, heureusement. Un parcours de découverte est beaucoup plus susceptible d'être retenu qu'un déversement d'informations par un orateur, à la manière malheureusement de ce webinaire. Au niveau de la documentation technique, les groupes d'utilisateurs fonctionnent exactement selon ce même principe. Et j'introduis une dernière notion qui est celle du rôle de l'enseignant ou de l'expert. Personnellement, j'attends d'un enseignant qu'il me regarde, donc qu'il montre qu'il s'intéresse à moi, qu'il m'intéresse par ce qu'il dit et qu'il me surprenne en tant qu'expert dans son domaine. Par rapport à un rédacteur technique, dans un document d'aide, j'attends que ce document me donne accès rapidement à l'information que je recherche. Donc, en faisant ça, que ce document me démontre que son rédacteur s'est suffisamment intéressé à moi, puisqu'il connaît mes besoins. Qu'il me donne aussi une information qui fonctionne, donc une information experte, fiable, qui a été vérifiée, qui a été testée. Et voir qu'il m'explique comment le produit me permettra d'aller au-delà de ce que j'espérais, plus vite, mieux, etc. Et je viens de me faire éjecter. Non, vous m'entendez encore? D'accord. Voilà, donc que ce produit me permette d'aller au-delà de ce que j'espérais en me proposant des fonctions évoluées ou des approches nouvelles qui me permettront d'aller plus vite dans mon travail. Passons maintenant à ce que l'école ne nous apprend pas, et il y a pas mal de choses que l'école ne nous apprend pas. Nous avons parlé des concepts utilisés en situation de communication. Transmettre, l'inégalité devant le savoir, pour les destinataires non homogènes, l'attitude de l'enseignant ou de l'entreprise, la situation d'apprentissage, le désir d'apprendre, la légitimité technique, etc. Il y a malheureusement toute une série de choses que l'école ne nous apprend pas. En dehors de certains apports théoriques, que l'école ne fournit pas non plus, comme des notions de typographie ou des savoir-faire d'utilisation de logiciels de dessin vectoriel ou du travail sur l'image animée, etc., mais qui sont des savoirs métiers du rédacteur technique, l'école nous apprend malheureusement des choses qu'il est indispensable de désapprendre. Il s'agit en particulier du travail individuel. La note est encore très, très souvent individuelle, donc il n'est pas question dans ce contexte-là de collaborer puisqu'on est en concurrence avec les autres. L'écriture créative. On fait encore beaucoup d'écriture créative. On cherche à imiter les auteurs littéraires. Ce n'est pas du tout ça qui est demandé au niveau de la rédaction technique, absolument pas. Lié à ça, il y a un certain orgueil mal placé puisqu'on est auteur, alors que le rédacteur technique doit pouvoir accepter que son texte soit remis en question, soit modifié, soit coupé, soit soit amendée, améliorée. C'est pas ça qui est intéressant. Le rédacteur technique n'est pas un auteur dont la prose sera immortelle. Il amène sa valeur ajoutée par la qualité, le choix des informations qu'il fournit. Les évidences, il ne faut pas se contenter des évidences, il faut se renseigner sur le destinataire du message et aller tester et confronter son outil documentaire à la réalité d'utilisation. L'élitisme, le rédacteur technique doit prendre en compte les plus faibles et les minorités, les handicapés, les jeunes, les personnes âgées, les illettrés, etc. Si on ne remet pas en question toutes ces choses apprises à l'école, on ne peut produire que de mauvais documents. Il faut donc radicalement changer d'optique. La propriété intellectuelle est celle de l'entreprise. On a le droit, mais surtout le devoir de copier, de reprendre ce qui existe, sous peine de brouiller l'identité de l'entreprise. Au niveau terminologique, il ne faut surtout pas faire de littérature et utiliser des synonymes, mais toujours le même terme pour désigner la même réalité. Le talent du rédacteur se reconnaît dans sa capacité à faire en sorte que tout fonctionne et qu'on l'oublie complètement. Il n'y a pas de note du rédacteur dans les manuels, de même qu'il ne devrait jamais y avoir de note du traducteur, sauf s'il y a une note de l'auteur dans l'original. Et la redondance, il faut fournir des accès multiples pour répondre aux différentes logiques, texte et images en particulier. La capacité à travailler en équipe, ça c'est une compétence qui est demandée partout en entreprise parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, mais elle entre en conflit avec l'individualisme qu'on a appris à l'école et avec l'ambition personnelle au niveau du travail. C'est ainsi que l'information étant un enjeu de pouvoir, il est nécessaire de mettre au point des stratégies pour lutter contre la rétention d'informations en entreprise, qui existe trop souvent. Parmi celles-ci, la principale est la confrontation en groupe lors de réunions de suivi. Elle permet de déceler des incohérences d'objectifs et de les faire dénouer par consensus ou par intervention hiérarchique en faisant discuter ensemble des personnes qui n'ont souvent pas l'habitude de collaborer dans leur travail habituel. C'est pas toujours de la mauvaise volonté. Hein. Très souvent, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est que l'information circule mal en entreprise. Il s'agit de proposer des outils, des ateliers, des jeux, des brainstorming pour mettre en place des ambiances de travail productives. Il faut être inventif et ensuite, il faut savoir animer. Il y a beaucoup d'oralité dans cet aspect du travail qui commence le matin en saluant la secrétaire et tous les membres de l'équipe et qui continue devant la machine à café pendant les pauses, pendant le repas de midi, voire au coin fumeur, même si on ne fume pas, pour rester en contact. La capacité à résoudre des situations sur une base non hiérarchique. Ça, en tant qu'expert de la documentation, il s'agit de mettre en place des réunions pour aboutir à des prises de décisions stratégiques. Par exemple, quand le rédacteur a décelé un dysfonctionnement, il peut établir un rapport qui mette ce dysfonctionnement en évidence et suggérer des solutions. Autre capacité à développer, la capacité à piloter un projet. Il est très intéressant de rédiger les comptes rendus de réunion, c'est quelque chose qui en général n'intéresse personne d'ailleurs, de les faire brefs, lisibles, en identifiant les actions qui ont été décidées et les responsables correspondants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que secrétaire de séance, dans ce cadre-là, il est toujours possible de demander des explications pour voir si on a bien compris, pour faire le compte rendu. Et ça permet de faire expliciter les choses. Le rédacteur est bien souvent un médecin accoucheur de l'information au sein de l'entreprise. Et il peut permettre aussi d'aboutir à une prise de décision. Et puis, quelque chose qu'on n'apprend pas en classe non plus, c'est à s'auto-évaluer. Il est toujours intéressant de réussir à se situer par rapport à des indicateurs qu'on a choisis, plutôt que d'être jugé selon les critères des autres. Si ces critères sont communs, tant mieux, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Il est indispensable de chiffrer ses projets en termes de temps passé, d'enregistrer chaque jour plusieurs indicateurs significatifs de la progression et pas uniquement des indicateurs quantitatifs. Le stockage des emails échangés ne suffit pas. Il faut une distance par rapport aux faits bruts, un regard d'expert sur le projet. Et ça, on l'obtient en suivant ces projets. C'est exactement ce qu'il est intéressant d'expérimenter en formation, de définir des critères de productivité, de progression, voire des alarmes, de revenir ensuite sur ces indicateurs, d'effectuer des auto-évaluations sur l'efficacité de ces indicateurs, de les corriger. Chaque situation est nouvelle. Il s'agit pour l'expert dans sa vie professionnelle d'inventer et de mettre en place des indicateurs qui sont améliorables. Ça, c'est pour le rédacteur qui est en position de rédacteur senior. L'expert réfléchit à ce qu'il met en place. La première approche de cet état d'esprit pour l'étudiant sera de définir, il me semble, ses motivations et ses objectifs dans la formation et de suivre leur évolution. Est-ce qu'ils changent ? Et leur progression ? Est-ce qu'ils avancent ? Toujours dans des savoir-faire non appris à l'école, il y a la capacité à proposer des solutions. Des fois, il faut savoir dire non aussi. Certains projets sont déraisonnables. Une fois, un client m'a demandé en une semaine de documenter 50 jeux vidéo issus de concepteurs différents et qui seraient copiés sur le même CD, qui seraient vendus dans les bureaux de tabac, dans les maisons de la presse. C'était infaisable. Pourquoi ? Donc là, j'ai même pas discuté, j'ai même pas argumenté, c'était pas possible, j'ai refusé. Et le client a fini par se rendre compte que c'était infaisable. Il faut savoir trouver la logique utilisateur. Dans le domaine informatique, quand un produit est conçu, le cahier des charges est en principe porteur de cette logique de l'utilisateur, puis viennent les spécifications fonctionnelles, qui en sont une traduction technique par rapport à la solution technique retenue. Et ensuite, au niveau de la documentation utilisateur, il y a le guide de référence qui reprend la même logique par fonction. Et enfin, on revient de nouveau au manuel utilisateur qui doit décrire le fonctionnement, un fonctionnement qui soit proche des préoccupations de l'utilisateur. Mais le seul moyen de s'assurer qu'on part dans la bonne direction n'est pas uniquement de s'appuyer sur le cahier des charges, mais c'est d'aller vérifier auprès des utilisateurs que c'est bien comme ça que ça se passe. Et plus le rédacteur est dans ce rôle d'intermédiaire, plus mieux il est à sa place. Alors, pour rappel, juste rapidement, toute la panoplie des savoir-faire du rédacteur technique, ça c'est le CRT qui les a définis il y a une vingtaine d'années. Je passe rapidement. Des exemples d'ateliers. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pourquoi en 1992, quand l'Université de Paris-Saint-Denis nous a demandé à Philippe Uziel et à moi de donner des cours de rédaction technique dans le cadre d'un cursus qu'il créait, j'ai mis sur pied pour ma part toute une série d'ateliers d'écriture, lors desquels j'ai pratiqué avec les étudiants les divers aspects de l'écriture et du test. J'ai rien inventé. J'ai repris un type de format similaire à celui dont j'avais fait l'expérience et que j'avais adoré à l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, où c'était des professionnels, des traducteurs, qui nous faisaient traduire tous ensemble en cours. Ce que j'ai rajouté, ce sont les objets d'études réels et le test. Les objets d'études réels, l'objet d'études réelles, c'était l'époque des modems. Ça a été de documenter un modem. Comment on faisait fonctionner un modem. Donc on avait une ligne téléphonique et ils ont manipulé sur place. J'ai refait depuis avec d'autres objets, avec un téléphone portable, notamment documenter une fonction. Le test est absolument central et il met en évidence à quel point on peut partir totalement à côté. C'est frappant, à chaque fois que je fais ce travail avec des étudiants, ils se rendent compte rapidement que la compréhension peut être entravée très très vite par un petit mot ou par l'absence d'une notion, une notion qui n'a pas été précisée. On tombe dans le, très, très rapidement dans le non-dit nous ennuie en permanence. Les choses considérées comme acquises. Quand on documente un objet réel, l'avantage c'est qu'on le manipule, donc on est en position d'utilisateur, on rentre dans le processus utilisateur, il faut l'illustrer, il faut, des fois on peut reprendre des morceaux de texte qui existent déjà, mais qu'on réécrit. Ça donne l'occasion de traverser tous les savoirs. Tous les savoirs. Là, on n'est plus sur du savoir, hein, savoir écrire, savoir illustrer. De travailler sur un document qui ne soit pas un document littéraire, pour la première fois, depuis l'école. Lors du test, il est très important de déculpabiliser le testeur et lui dire que ce n'est pas lui qui est testé. On ne répond pas à ces questions techniques, évidemment, sans ça on casse complètement le test, mais il est important de lui faire expliquer par contre ce qu'il n'a pas compris. Et ça, c'est très 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 formateur. Dans les années 2000 ou 2002, je ne sais plus, TC Europe, la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Rédacteurs Techniques, avait monté un projet de normes documentaires. J'y ai participé au nom du CRT. Nous y avons travaillé pendant des heures. J'ai insisté pour que soit intégrée toute une partie sur le test de la documentation. On y a vraiment passé des heures. C'est un document consensuel au niveau européen. J'ai malheureusement pas réussi à le retrouver, sans ça je vous aurais bien donné l'adresse, mais il a été traduit dans toutes les langues de l'Union européenne de l'époque et il est tout à fait clair. Une nouvelle chose sur les approches de la connaissance et de la validation des connaissances. Elles sont maintenant toutes construites selon le même modèle, que ce soit pour l'enseignement de la danse classique, pour celle de l'anglais dans le cadre du cadre européen commun de référence pour les langues, ou pour les descriptions de postes de Pôle emploi. Il s'agit toujours de descriptions du type « je sais faire des exercices courts de relevé sur pointe à la barre » ou « je sais demander mon chemin et comprendre les indications en interaction avec un anglophone » ou « je sais conduire un véhicule de tourisme ». Quand on apprend à monter des cours à l'IUFM, je suis passé par l'IUFM l'an dernier, on apprend à mettre en place des séquences de formation en partant de l'objectif à atteindre. C'est cette approche par le savoir-faire à atteindre qui est maintenant passée dans les mœurs. Et c'est l'approche que j'ai mise en place pour la première fois sous cette forme systématique au mois de février à l'Université de Clermont-Ferrand pour un atelier de 4 heures sur la rédaction technique. Ce qu'on a fait ensemble, c'était examiner les objectifs, voir les outils qu'on avait à notre disposition, prendre des conventions d'écriture, des critères de qualité, voir rapidement une procédure de test, faire le test et reboucler. Ensuite, c'était pas tout. Vérifier que le résultat obtenu correspondait à l'objectif de l'atelier et finalement noter le formateur et lui suggérer des améliorations pour la fois d'après. Ça, c'est ce qui me semble très important. C'est toute la démarche autour de ce qu'on fait qui est plus importante que ce qu'on fait réellement, parce que quand les rédacteurs seront en situation professionnelle, ils auront tout à créer. En général, ils auront tout à créer. Et ils auront très peu d'aide. Je fais un retour en arrière. En 91, quand j'ai passé mon DESS de traducteur à l'ESIT, il y avait en France que la formation de l'American University in Paris, aujourd'hui disparue. J'ai eu la chance de faire un stage de traduction chez Digital à Évry. Comme il y avait des rédacteurs sur place, j'ai pu voir comment ils travaillaient et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai demandé à faire un deuxième stage et j'ai fait un deuxième stage comme rédacteur technique. J'ai adoré et à ma sortie de l'ESIT, donc j'étais diplômé comme traducteur, je me suis lancé tout de suite comme rédacteur parce que ça m'intéressait davantage. Et j'ai eu la chance de trouver une société britannique qui s'appelait Digitext qui m'a confié des missions et pendant 2 ans j'ai travaillé pour eux. Et je connaissais donc, j'avais certaines méthodes utilisées en traduction, j'avais une première expérience de la rédaction et surtout j'avais la conscience de ce qui me manquait. Et très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que j'échange avec des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et j'ai créé le conseil des rédacteurs techniques pour qu'on puisse avoir ce type d'échange. Aujourd'hui, l'association existe, il y a des formations qui existent, mais ce qui est demandé aux rédacteurs techniques est toujours du type « on ne sait pas faire, allez-y ». Et chaque situation est unique. Il vaut mieux donc partir outillé. Donc, il y a des outils métiers à inventer. Il reste beaucoup d'ateliers à mettre en place. Faire rédiger la notice d'une fonction d'un appareil ou d'un logiciel grand public n'est qu'un des aspects de notre métier. Actuellement, au CRT, il n'y a pas un seul rédacteur qui rédige des documents grand public. Je ne sais pas si ces personnes ont été formées dans les formations existantes en France. Par contre, la majorité des membres du CRT sont à leur compte et interviennent en tant que senior, plutôt en tant que senior ou rédacteur expert, sur des missions de conseil et de réalisation de documentation. Mais en général, quand ils arrivent, il y a tout à mettre en place. Et il est donc nécessaire de mettre en place des ateliers qui correspondent à ces missions. Réfléchir sur les documents cadres d'un projet, sur la norme documentaire de l'entreprise qu'il faut mettre en place, sur des retours, comment traiter les retours clients via le SAV, ou faire un modèle de compte-rendu de réunion de suivi, voir comment, voir sur une année, dans une situation réelle, comment assister à une réunion et faire les comptes-rendus de réunion permet de de piloter, en fin de compte. De piloter, bon, pour des projets documentaires, hein. De piloter sans être en position de président de séance. Et puis, de mettre en place des procédures de test, des questionnaires de satisfaction, etc. Donc, il y a des tas d'outils à inventer sur un cursus de rédacteur technique. Avec toujours la même approche, l'approche par atelier et un rebouclage avec du test. Et j'en arrive à ma conclusion, qui est que l'approche par le test fonctionne, qu'il faut mettre en place des approches pour rédacteurs seniors, mais la question reste ouverte au niveau de quel cursus. Est-ce que ça va être un cursus de lettres comme à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il vaudrait pas mieux que ces cursus soient intégrés au niveau du marketing, nettement plus proche de la chaîne de commande de l'entreprise, ou autre. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.